6h44 en temps universel, RFI Matin, la suite, c'est un nouveau journal, le point sur les combats dans l'est de la RDC, avec Paulina Zidi, notre correspondante, en direct à 8h, heure de Paris et Kinshasa. Cap d'abord sur l'Allemagne avec une ville pas franchement connue pour sa beauté et où l'extrême droite a récolté près de 30% des voix aux dernières élections dans l'ex-Allemagne de l'Est, en Saxe. La ville de Chemnitz tente de s'arracher à son image et s'offre l'occasion rêvée. Elle est depuis quelques jours la capitale européenne de la culture pour 2025. 12 mois de programme ambitieux pour faire découvrir une partie de l'Allemagne peu connue et dont la réputation n'est pas la meilleure. Pascal Thibault.
Chemnitz, capitale européenne de la culture 2025, est lancée.
Sur la scène, devant l'énorme tête de Karl Marx, qui a donné son nom à la ville sous la RDA communiste, le président Steinmeier donnait il y a une semaine le coup d'envoi d'une année de festivités avec 225 projets et 1000 événements à Chemnitz et dans les 38 communes de la région. Ce titre de capitale européenne de la culture, décroché en 2020, n'allait pas de soi, comme se le rappelle Martin Bauer.
C'était une très très grande surprise vu aussi les autres villes qui étaient candidats en Allemagne. On s'attendait pas à ça. Aujourd'hui, je crois, ça peut donner vraiment un coup de pouce pour qu'on puisse être plus fiers de notre ville.
Il est vrai que Chemnitz n'était pas favorite. La ville au riche passé industriel, autrefois baptisée le Manchester saxon, vit aujourd'hui dans l'ombre de ses voisines, Dresde et Leipzig. Détruite à 80% durant la guerre, le régime est-allemand y a construit une ville nouvelle avec des tours et des bars. Peu glamour, rebaptisé Karl-Marx-Stadt. Je viens de Karl-Marx-Stadt, une ville pleine de vieux, de nazis et de hooligans, chantait le groupe de Chemnitz Kraftklub il y a une dizaine d'années. Chemnitz avait été le théâtre d'une chasse aux migrants en 2018 dont l'écho médiatique négatif avait été mondial. Khaldun al-Sadi participe au projet de centre de documentation sur les crimes du groupe néo-nazi NSU qui doit ouvrir en mai à Chemnitz.
La ville a montré qu'elle est prête à se confronter à l'extrémisme de droite. Cela nous donne du courage, car il y a aussi ici des personnes qui voient ça différemment.
L'extrême droite qui manifestait le week-end dernier rejette le projet de capitale européenne de la culture.
Ce sont des projets soutenus avec 100 millions d'euros. C'est de l'argent dont on nous prive. C'est une honte.
35 ans après la réunification, Chemnitz veut se donner une nouvelle image, se faire mieux connaître et reconnaître, redonner confiance à une population qui a subi des transformations difficiles depuis la chute du mur. Le week-end dernier, l'heure était à la fête.
Des gens qui fêtent la démocratie, la culture et qui sont de bonne humeur. C'est super.
Nous sommes heureux d'être la capitale européenne de la culture. C'est un bel événement. C'est sympa que Chemnitz donne une image positive au lieu d'infos négatives.
Pascal Thibault, Chemnitz, RFI.
Et à Chemnitz comme à Paris, il est 7h47.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohem.
Un moment très heureux, salué hier par Benjamin Netanyahou, un deuxième échange d'otages et de prisonniers entre Israël et le Hamas. Une semaine après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, 4 soldats israéliennes ont pu quitter l'enclave où elles étaient retenues depuis plus d'un an. Près de 200 prisonniers palestiniens ont été relâchés par l'État hébreu. La journée d'hier marquée aussi par un différend. Israël demande la libération d'une otage civile qui était prévue ce samedi et refuse en attendant de dégager le couloir de Netzarim qui coupe la bande de Gaza en deux entre le nord et le sud. Un mot aussi des déclarations de Donald Trump il y a quelques heures. Le nouveau président américain propose de faire le ménage à Gaza. Ce sont ses mots. Il dit vouloir envoyer les Palestiniens de l'enclave vers l'Égypte et la Jordanie temporairement ou à long terme pour obtenir la paix. Alexandre Loukachenko n'a aucune légitimité. Les mots hier de la chef de la diplomatie européenne alors que le président biélorusse brigue aujourd'hui un 7e mandat d'affilée. Il est au pouvoir à Minsk depuis 1994, dans un pays proche allié de la Russie où il n'y a plus de véritable opposition. La précédente élection en 2020 en Biélorussie avait été marquée par une contestation des résultats très durement réprimée. Et puis dans l'est de la République démocratique du Congo, les combats se poursuivent aux alentours de Goma, la grande ville de l'est Affrontement entre l'armée congolaise et le M23 soutenu par le Rwanda. La RDC annonce rappeler avec effet immédiat tout son personnel diplomatique de Kigali. La réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU était prévue demain. Elle est avancée à aujourd'hui. Alors qu'hier, les combats ont fait plusieurs morts dans les rangs des forces de la SADC et de la MONUSCO, alliés de Kinshasa. 9 Sud-Africains, 3 Malawites et 1 Uruguayen ont été tués. Les combats ont aussi coupé 2 lignes à haute tension. De nombreux habitants de Goma sont privés d'électricité et l'eau commence à manquer. Comme chaque semaine, elle nous présente ses têtes d'affiche sur RFI. Denise Epoté de TV5 Monde est au téléphone de Nicolas Brousse.
Bonjour Denise Epoté.
Bonjour Nicolas Brousse.
Cette semaine, vos deux têtes d'affiche ont représenté la tech africaine au CES de Las Vegas, le rendez-vous mondial de la high-tech. Une première pour les 6 startups présentes sur l'Africa Pavillon. Franco-marocain Nabil Moumane est docteur en médecine et ingénieur en physique de santé. En 2023, il a fondé Sense Biotech, un nez électronique pour détecter de manière précoce les cancers.
En 2021, en découvrant que grâce à leur odorat, les chiens étaient capables de détecter une maladie avant l'apparition des premiers symptômes, 2 ans plus tard, Nabil Moumane met au point Sense Biotech pour répondre aux enjeux de santé, en particulier dans la lutte contre le cancer. Dans le diagnostic, chaque mois de retard augmente de 10% le risque de mortalité lié au cancer. Née électronique médicale, Sense Biotech est équipée de nanocapteurs ultrasensibles. Après avoir détecté les modifications de l'odeur corporelle, un signal spécifique est émis en fonction de la maladie avant que les premiers symptômes n'apparaissent. La start-up a conçu et breveté un dispositif de relevé de l'odeur corporelle. Une première étude clinique est en cours actuellement en France. Elle va permettre à Nabil Moumane d'identifier les marqueurs volatiles spécifiques au cancer de la peau. Ce dépistage non invasif est destiné aux médecins généralistes qui pourront diriger leurs patients vers des spécialistes pour une prise en charge rapide et par conséquent réduire les dépenses de santé. Sense Biotech sera déployée en Europe, en Amérique du Nord et bien sûr en Afrique. La start-up a été labellisée Deep Tech et a obtenu la bourse French Emergence. Elle a également remporté le prestigieux concours national d'innovation en France, e-lab.
Denise, la seconde start-up présente au CES est RenewTech, fondée en 2022 par Laurent Mendy de Guinée-Bissau. Après avoir suivi un cursus stratégique d'entreprise à HEC, il a également reçu une formation complémentaire en gestion de l'innovation et des énergies renouvelables. Son innovation permet de garantir un avenir énergétique durable grâce à l'hydrogène.
En 2022, lorsqu'il décide de fonder RenewTech, Laurent Mendy s'est fixé comme objectif de répondre aux défis environnementaux en développant des solutions innovantes basées sur l'hydrogène afin de créer un avenir énergétique durable et de réduire l'empreinte carbone des industries et des habitats. La start-up développe des solutions pour la production, le stockage et la conservation de l'hydrogène. Elle produit également des piles à combustible et des réacteurs intelligents, complété par des services comme l'intégration de l'hydrogène dans les processus industriels. Les utilisateurs sont des particuliers pour leur logement, des industries grâce à la décarbonation et à l'optimisation énergétique et des agriculteurs pour améliorer leur rendement, mais également des entreprises de transport lourd et maritime pour une mobilité plus verte. RenewTech a accéléré l'adoption de l'hydrogène comme énergie propre, notamment en fournissant des solutions abordables et modulables, capables de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans plusieurs industries clés. En 2024, au sommet international de l'innovation des villes médianes, RenewTech a remporté le prix de la planification écologique. Début janvier, au CES de Las Vegas, la start-up a remporté le prix Start-up francophone de l'année.
Denise Epoté de TV5 Monde avec Nicolas Brousse que vous retrouvez tout à l'heure pour Afrique Midi. Et dans notre reportage Afrique aujourd'hui, suite et fin de notre série en Centrafrique, ces deux derniers jours, vous entendiez les forgerons et les cultivateurs de manioc dans la ville de Bossongo. Mais après les années de crise militaro-politique qu'a traversé le pays, de nombreux Centrafricains ont perdu leur source de revenus. Nous sommes ce matin à Liton, au nord de Bangui, où l'école professionnelle d'hôtellerie offre à certains une deuxième chance. Créée en 2020, l'établissement répond à la demande croissante de professionnels qualifiés et lutte à son échelle contre le chômage des jeunes. Rolf-Steph Domialeux.
Il y a le back-office. Le back-office, c'est derrière l'administration de l'hôtel.
Aux environs de 8 heures du matin, la fraîcheur domine l'atmosphère du village de Litan. Situé à quelques mètres de la route principale, l'école professionnelle d'hôtellerie accueille cette année une cinquantaine d'étudiants.
Le barman. Le connu du bar.
Dans cette école, la formation est couplée avec des séries de stages pratiques adaptées à la réalité du terrain. Ce matin, les cours se déroulent en petits groupes. Dans cette salle transformée en chambre bien aménagée, Stéphanie Sabé et son équipe ont pour mission de nettoyer la pièce et remettre le lit en 10 minutes.
Une fois arrivé dans la chambre, si le client est présent du lieu de sortie, pour le moment, il faut balayer et nettoyer avant d'arranger les lits. Sinon, il y a plusieurs choses qu'on va tester avec les lits. Il y a des draps pour être bien et lisse.
Dans le bâtiment en face, une autre équipe apprend les techniques d'un accueil chaleureux. Pantalon noir, chemise blanche et cravate noire bien nouée, Cédric Thioko, un étudiant, affiche un enthousiasme contagieux en plein exercice de réception d'un client.
Bonsoir messieurs, bienvenue dans notre hôtel. Tu souris, tu sois simple dans toutes les choses. Je ne le salue pas à main. Je lui demande, monsieur, vous voulez quoi? Il précise d'abord ce qu'il va manger et je lui reçois.
Sourire aux lèvres, Saint-Cyr Tony se dit fier d'apprendre ce métier. Ce jeune homme d'une vingtaine d'années qui s'intéresse à la restauration concocte aujourd'hui un poulet braisé.
Les aliments qui composent l'entrée, on a la tomate, salade, carottes, haricots verts, les choux. Les aliments qui composent l'assaisonnement du poulet, nous avons les poivres, sel, moutarde. Après cette formation, je vais m'ouvrir un restaurant, pourquoi pas un hôtel.
En 4 ans d'existence, cette école a mis sur le marché d'emploi plusieurs centaines de personnes qualifiées qui exercent dans des hôtels à Bangui et à l'étranger. Grâce à ce travail, celles-ci, pour la plupart des victimes, ont pu reconstruire leur vie. Aurélien Niquez Pamala est le directeur de cette école.
C'est depuis 2020 que l'école a vu le jour. On forme en une année. 6 mois de formation théorique, 3 mois de formation pratique. On envoie l'étudiant dans les hôtels de la place pour 3 mois de formation académique encore. Et après cette formation académique, nous on revient ici pour décerner les diplômes.
Cette école est aujourd'hui indispensable pour répondre aux défis de l'emploi des jeunes et la réinsertion des victimes. Rolf-Steph Domialeux, Bangui, RFI.
Et nos 3 reportages en Centrafrique que vous retrouvez sur notre site RFI.fr. Et dans 100% création ce matin, une autre série qui se termine, celle qui vous a emmené depuis décembre à la rencontre des artisans et des créateurs qui ont rebâti en 5 ans la cathédrale Notre-Dame de Paris. On termine aujourd'hui avec une vitrailliste qui a contribué à redonner son éclat à Notre-Dame. Elle s'appelle Elodie Schneider et nous parle de son métier avec Maria Afonso.
Même en étant spécialisée dans le vitrail, il y a énormément de choses différentes et de créations aussi à faire.
Elodie Schneider, vitrailliste et fondatrice de l'atelier Les Aventures Verrières.
C'est vraiment un métier où il faut se concentrer. Quand on démonte un vitrail, il faut faire attention à pas casser de pièces, à bien jeter ses plombs, à porter un masque pour se protéger parce qu'il y a aussi tout l'aspect santé, hygiène. Avoir un petit côté créatif si on souhaite faire de la création. Et en restauration, être passionné, c'est un peu la base.
Originaire d'Alsace, Elodie Schneider a vécu dans la région du parc naturel des Vosges du Nord, riche d'histoires autour des métiers du verre. Elle a été fascinée très jeune par le travail du verre et après des études en arts plastiques, elle s'est tournée vers le vitrail qui allie technique et créativité. Après cette formation, Elodie Schneider entreprend un tour de France à vélo pour découvrir ses multiples techniques. C'est cette soif de découverte qui l'a amenée sur le chantier de Notre-Dame de Paris.
J'étais en stage à la Domkapelle Köln, donc les ateliers de la cathédrale de Cologne. C'est un très chouette lieu, il y en a une petite vingtaine partout en Europe. On en a une en France, elle est à Strasbourg. Elles ont toujours été là, ces Domkapelle, parce qu'il y a toujours à restaurer. Ça permet des archives, un travail d'une très haute qualité avec des gens qui sont pointus dans leur domaine et qui sont surtout passionnés par ce qu'ils font. Et pendant ce stage, Notre-Dame de Paris a brûlé. Le monde entier a été très touché et les Allemands m'ont dit « Mais Elodie, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider concrètement ?» 2 ans plus tard, l'un des chefs de la cathédrale de Cologne m'appelle pour être avec eux pour travailler sur le chantier Notre-Dame de Paris. Il y a eu des cagnottes. Simplement, au lieu de juste donner les sous, ils ont dit « Nous, on voudrait aussi donner notre savoir-faire. » Il y a 4 baies, un lot qui a été transporté en Allemagne et restauré notre Rhin. Elodie Schneider s'est appuyée sur des archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, afin d'analyser les gestes de l'artiste et maître verrier Jacques Le Chevalier, qui a créé entre 1961 et 65 les vitraux qui ont fait l'objet de la restauration.
On a pu retrouver vraiment visuellement les gestes qu'il utilisait et les outils aussi. Et c'était génial avec ses collègues allemandes de voir toute cette passion et cette envie de reproduction à l'identique. Ça a été tout un travail aussi de trouver les recettes, de retrouver les teintes.
Retrouvez l'univers d'Elodie Schneider sur RFI.fr, chronique 100% création, et en podcast sur RFI Pure Radio.
Maria Afonso pour 100% création. Bienvenue sur RFI. Si vous nous rejoignez en ce dimanche matin, le journal dans 30 secondes. À tout de suite.
Géopolitique.
Il y a 5 ans, le Brexit marquait la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 janvier 2020, puis du territoire douanier l'année suivante. Cet anniversaire tombe en plein retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Les interrogations autour de la relation particulière entre le Royaume-Uni et les États-Unis sont nombreuses et la route promet d'être compliquée. Éclairage avec des spécialistes.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Tout à l'heure, à partir de 18h40 TU.
RFI.